Vous êtes avec SBS French.
J'ai le plaisir d'accueillir trois invités, trois personnes derrière le documentaire spectaculaire Inferno Without Borders, un documentaire qui traitait des incendies qui ont ravagé une grande partie de l'Australie en fin 2019, début 2020, et un documentaire qui vient d'être sélectionné pour le Festival du documentaire de Melbourne. Mesdames, avant d'entrer dans le vif du sujet, de nous parler de ce documentaire, présentez-vous à nos auditeurs et dites-nous quel a été votre rôle dans ce projet.
Mon nom, c'est Sandrine Charrier. Je suis réalisatrice, productrice et co-scénariste.
Je suis Laura Sivis, productrice.
Bonjour, je suis Sophie Lepovic. Je suis scénariste et co-réalisatrice de Inferno Without Borders.
Inferno Without Borders, ce documentaire qui est sorti il n'y a pas longtemps, un documentaire qui traite des grands feux de forêt qui ont ravagé une grande partie de l'Australie fin 2019, début 2020, juste avant la pandémie, donc une catastrophe, mais qui a ravagé une grande partie du territoire et que vous avez couvert, mais sous un angle particulier. Vous avez aussi touché sur l'aspect de la gestion de l'environnement, des peuples aborigènes, une façon de combattre les feux de brousse par des techniques ancestrales. Parlez-nous de ce film.
En fait, on avait déjà fait un documentaire avec le France Télévisions et on était en plein feu de forêt partout en Australie. On était en train de commencer un autre projet. En fait, on était demandé de diriger vers ce sujet pour faire un autre documentaire là-dessus. En fait, on n'était pas du tout prêt à le faire. C'était une grande surprise. On nous a fait la demande juste avant Noël et quoi, dans 2-3 semaines, on est en train de tourner. On se lance là-dedans très vite. Et en fait, on n'avait pas le temps de trouver l'argent pour le budget ni rien. C'est parce qu'en fait, il fallait lancer le tournage.
Ouais.
Et voilà, et à partir de ça, il fallait trouver l'histoire, tout ça. Et c'était plutôt là que Sandrine et Sophie ont commencé à travailler bien.
Oui, sachant que Laura était en France quand cette demande a été faite. Et donc, à distance, elle m'aiguillait, me conseillait, fait ci, fait ça. Et nous, on était sur le terrain, Sophie et moi, pour faire le reste. Déjà, France Télévisions voulait parler des feux, des incendies, bien sûr, parce que c'était la panique ici, peut-être en Australie, mais dans le monde entier. Tout le monde était très concerné par ces feux-là. Et aussi, Le broadcaster français qui nous a contactés venait de Nouvelle-Calédonie. Il nous connaissait déjà par le film précédent et il nous a dit « on a vos fumées, on reçoit vos fumées chez nous ». Donc, ça nous concerne aussi encore plus. Et il nous faut un sujet un peu différent des autres. Je pense que les gens sont un peu fatigués de voir la même chose, toujours… On sait que ça a affecté vos terres, vos animaux, les humains, la destruction. Mais est-ce que tu peux, Sandrine, nous apporter une autre idée? Et j'en ai parlé à Sophie, j'en ai parlé à Laura. Je dis OK, je vais chercher une idée. C'est comme ça. On a d'abord eu la première idée qu'on a commencé à s'orienter. C'était la venue des pompiers français qui venaient aider les pompiers ici, en Australie, mais ils ne restaient pas suffisamment longtemps pour qu'on poursuive dans cette voie-là. Du coup, je suis descendue à la manifestation qui a eu lieu en janvier sur le changement climatique. Le peuple vraiment se soulevait. Et là, j'ai rencontré des gens très, très intéressants, à la fois des victimes de Cobargo. J'ai même rencontré un Français urbaniste. J'ai rencontré plein de gens intéressants et des aborigènes qui ont commencé à me parler du coal burning, des feux traditionnels. Et là, ça m'a interpellée. Et de cette idée, j'ai commencé à faire mon enquête. Sophie, parallèlement, m'aidait à tout ça. Et là, j'ai vraiment compris qu'il y avait quelque chose à faire, à enquêter, à aller plus loin. parce que je sentais qu'il y avait une ignorance générale et en même temps, je sentais qu'il y avait quelque chose à faire dans cette voie-là. Et donc, j'en ai parlé à France Télévisions. Ils m'ont dit, parfait, c'est ce qu'on veut. On veut quelque chose avec un angle de vue qui vient des aborigènes. Et c'est parfait, vas-y. Et voilà, et on est parti, mais ça a été complètement, comme dit Laura, très organique, très intuitif. On est parti sur la route. Vraiment dans le chaos, on va dire, ne sachant pas. Donc, tous les sujets, on les a trouvés en cours de route, on va dire. On avait une liste de gens qu'on avait contactés, mais il y en a eu d'autres qui se sont greffés sur notre parcours, qui n'étaient pas du tout prévus et qui sont formidables, qui font le film, en fait.
Dans cette façon de vous lancer dans le vif du sujet très rapidement, avez-vous eu le temps d'écrire un script pour ce film, de peaufiner le texte ou de vraiment bien le préparer, ou ça a été, je dirais pas de l'improvisation, mais plutôt…
C'était organique.
C'était organique. C'était
jusqu'au bout des ongles.
On n'a pas eu beaucoup le temps, on n'a pas eu quasiment pas eu le temps de se préparer. On a eu quelques, on avait des contacts, on avait des gens qu'on voulait interviewer, c'est certain.
Et vous aviez une équipe de caméramans, toute l'infrastructure qu'il faut pour vous lancer sur la route, ou vous le faites vous-même?
On a une équipe qui était bien établie. C'était pour ça qu'on pouvait partir comme ça.
Oui, parce que l'équipe était déjà fin prête à partir pour l'autre sujet que nous étions supposés faire au Vanuatu, en fait. Donc, l'équipe était prête à partir, sauf qu'on n'est pas parti dans la même direction.
Pas dans la même direction, mais vous étiez quand même sur le même projet.
Oui, mais donc, au lieu d'aller au Vanuatu, on est resté en Australie et on a pris d'autres sujets. Mmh. Et effectivement, il n'y avait pas de script. Et c'est ma deuxième expérience accidentelle en traitant des sujets sur les catastrophes naturelles, puisque mon premier sujet, c'était aussi par rapport à des cyclones qui s'étaient abattus au Vanuatu. Là, c'est sur les feux. Et en fait, on n'a pas le temps de réfléchir. On sait l'angle qu'on veut prendre. Et dès qu'on a une très bonne équipe avec qui on sait travailler, il y a un échange naturel qui se fait sur le terrain. On sent les choses au même moment. On sait ce qu'il faut prendre à tel moment. Et du coup, ça facilite énormément le travail. Sans ça, effectivement, partir avec une équipe que vous ne connaissez pas, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Mais là, ça s'est fait de façon très naturelle grâce à ça, grâce à cette équipe qu'on avait déjà prête à partir sur place.
Et quels sont les pays aborigènes que vous avez... Donc, sur lesquels vous avez travaillé, comment est-ce que vous avez collaboré avec les leaders en suivant leur protocole pour pouvoir accéder à leurs connaissances aussi?
Initialement, je ne savais vraiment pas comment approcher la communauté aborigène de façon générale. Je savais où nous devions aller, puisque nous voulions suivre la naissance des feux,
des incendies,
depuis sa naissance jusqu'à la fin. Donc, la naissance, c'était pour Macquarie. La finale, c'était pratiquement vers Canberra. C'est arrêté à Bega. Et dans notre recherche, dans notre enquête sur les sujets et les talents, on a été vraiment aiguillés de fil en aiguille grâce à des amis. Et c'est comme ça qu'on est tombé sur les protagonistes que nous voulions. J'ai eu la chance de parler avec Sandra Spires, qui a sa propre boîte de production et qui est très en étroite collaboration avec des communautés aborigènes. Elle a été la première à me dire, Sandrine, adresse-toi au Bega Land Council, Aboriginal Land Council. Je pense que c'est la source. Et j'avais déjà une personne avec qui je voulais vraiment parler, c'était Victor Stephenson, parce que c'est lui qui m'avait aussi marqué dans certains Q&A que j'avais regardé sur les coal burning, et je n'ai jamais réussi à la voir. En l'occurrence, le council m'a orienté sur les communautés aborigènes à approcher, et puis Marissa McDowell, qui est aussi aborigène, productrice aborigène et scénariste aussi, Elle m'a aussi aiguillée, elle m'a dit, voilà, essaye cette communauté-là. Donc, la communauté que nous avons réussi à avoir, c'était la communauté Yuin, dans le sud du New South West. On m'avait expliqué que ça serait un peu compliqué pour avoir les permissions. Très honnêtement, ça a été beaucoup plus facile que ce que je pensais. Toutes les communautés Yuin aborigènes nous ont vraiment ouvert les portes et nous ont dit, oui, venez, on vous veut, personne vient nous voir, venez nous voir. Ça vraiment, ça s'est, tout s'est écoulé pour le peu de temps que nous avions à réaliser ce film, à le sceller. Je trouve que par rapport à tout ce qu'on m'a dit, tout s'est passé plutôt bien. Et voilà, donc c'est vraiment la communauté Yuin qui nous a accueillis, ouvert les portes, notamment le Big Air Council, mais aussi le Fire Stick Alliance, qui nous ont tout expliqué. C'est à travers leurs membres que nous avons pu avoir accès à toutes ces connaissances sur le cool burning. Et puis Sophie, qui nous a fortement aidés avec son contact avec la partie des pompiers. C'était important d'avoir leurs avis aussi sur ce qu'ils pensaient des cool burning et de comment ils s'associent ensemble, est-ce qu'ils travaillaient ensemble ou pas. Et là, je laisse Sophie en parler, maintenant qu'elle est là.
On a été interviewer les gens en fonction de nos possibilités, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, les feux brûlaient encore, donc on a dû changer nos plans plusieurs fois, parce que certaines routes étaient bloquées, puis ça brûlait dans un autre endroit, donc on prévoyait d'aller au nord, on a dû aller au sud, et tout replanifier constamment au cours de route, quoi. Ce qui était intéressant de savoir, c'était un peu de comprendre quelles étaient les pratiques utilisées en prévision des feux de forêt, qu'est-ce qui était fait, comment étaient gérés les territoires. Donc, on a entendu parler beaucoup des hazard reductions, ce sont des feux de prévention qui se font avant les feux de forêt, donc au cours de l'année, dans les mois les plus froids. Puis, on entendait parler de backburning, et c'était un peu compliqué. Je pense que les gens étaient un peu confus, ne comprenaient pas exactement quelles étaient les définitions de tous ces différents feux. Les infos, on ne couvrait que ça, en fait, tous les feux de forêt. Il y avait beaucoup de vocabulaire qui était utilisé, mais on avait très peu les définitions qui nous étaient données. Donc, on a essayé de clarifier tout ça et pour pouvoir créer un documentaire assez didactique pour pouvoir un peu aider les gens à comprendre comment tout ça, comment était géré, est-ce que c'était bien géré, et justement le fait de mettre aussi en avant les feux traditionnels et comprendre la différence et laisser tout le monde faire son propre avis en regardant ce film et en rencontrant tous ces professeurs, on va dire, qu'on a eu, parce qu'ils nous ont vraiment éduqués sur plein de choses et on a eu la chance de se retrouver sur des... dans des endroits où on nous a vraiment pu nous montrer les différences de résultats si on utilisait une façon, c'est-à-dire les feux traditionnels ou une autre. On a vraiment eu cette chance de pouvoir montrer en image la différence qu'on peut obtenir en utilisant l'une autre et une autre façon. Et puis, vous me demandiez s'ils collaboraient. Donc, oui, effectivement, les pompiers disent qu'ils connaissent ces techniques, ils savent que ça marche. Le problème, c'est de pouvoir comment les utiliser à grande échelle. Parce qu'on sait, bon, évidemment, c'est toujours le coût, c'est toujours où mettons l'argent, dans quoi le gouvernement met l'argent et qui suivre. Il y a énormément de rangers qui sont donc dans des communautés aborigènes qui essayent de faire un super travail et d'utiliser ces techniques traditionnelles qui sont de plus en plus connues, pas encore assez, mais les gens qui les connaissent, bah, se rendre compte qu'elles sont efficaces. Donc, voilà, donc il y a vraiment de l'espoir que ça se répande un maximum, mais c'est vraiment pourquoi on a écrit notre documentaire de la façon dont on l'a écrit, parce qu'on voulait mettre en avant et on voulait donner la voix aux communautés aborigènes pour qu'ils puissent nous en parler. Parce qu'en général, ils ne sont pas assez écoutés et c'est vraiment quelque chose qu'on voulait mettre en avant.
Qu'est-ce que vous avez appris en faisant ce film?
On a des similarités, on pense un peu. Mais c'est très intéressant que Laura donne son point de vue en tant qu'Australienne née ici et moi en tant que Française qui suis arrivée après, ici sur les terres australiennes. J'ai un mari qui est australien. Quand j'ai commencé à lui poser des questions, qu'est-ce que tu sais des feux traditionnels? Il m'a dit, mais je ne sais rien du tout.
J'ai le forêt australien. Chez moi, je suis vraiment aux frontières d'une forêt. Et pendant que j'étais en France, pendant toutes les forêts, j'avais peur que ma maison va brûler, quoi. Alors, moi, j'ai grandi auprès de la forêt et je n'ai jamais entendu de cette méthode de feu traditionnel. En fait, on sait que c'est un feu traditionnel, mais on ne savait pas à quoi ça sert. On pensait que c'était comme un backburning habituel qui fait par les pompiers. Mais là, c'est complètement différent parce qu'en fait, la terre ne se sèche pas. Il y a pas avec un feu de contrôle qu'on fait ici. Mais habituellement, en général, après le feu, il y a toutes les feuilles qui tombent par terre. Il y a autant de feuilles et tout ça par terre qu'il y avait après un mois, deux, trois semaines. C'est pareil. Mais avec le cool burning, il n'y a pas tout ça. Et en fait, c'est pour ça que c'est efficace, parce que ça augmente pas le fuel.
Le carburant plutôt au sol. On va dire qu'en fait, tous les déchets, toutes les feuilles mortes,
oui, voilà,
sont un carburant pour les feux qui viennent et qui peuvent être dévastateurs. Et justement, le fait d'entretenir le sol et de nettoyer tout ça à feu doux, parce que si on fait à feu trop puissant, ça abîme le sol lui-même. Et donc, tout ce qui repousse à ces endroits-là n'est pas ce qui devrait se retrouver là. Et donc, le problème a été que la façon dont les feux ont été faits, on fait en sorte que la végétation qui renaît ensuite est une végétation qui aime les feux. Et plus on brûle à température chaude, plus la végétation qui se retrouve est des végétations qui cherchent à avoir trop de chaleur, ce qui malheureusement détruit complètement tout. Je pense qu'il faut vraiment que vous regardiez le documentaire. Hein. Voilà. En fait, ce qui se passe, c'est que les feux traditionnels sont des feux qui sont faits à des températures qui sont assez basses et donc ne détruisent pas tout. Tandis que les feux de prévention qui sont faits par les pompiers sont faits à des échelles beaucoup plus grandes et la chaleur est beaucoup plus forte. Et donc, elle détruit aussi le sol. Malheureusement, ça transforme en fait la végétation, ça transforme le paysage. Et il se retrouve à des endroits, à certains endroits, des végétations qui ne devraient pas se trouver là. Et qui permettent aussi au feu de monter plus haut à chaque fois dans les arbres et détruire les canopées complètement. Alors que quand il y a les feux traditionnels, ils sont faits à feu doux, ça respecte tout. C'est vraiment une approche holistique qui respecte les insectes, les animaux. Donc, ils font des feux doux, les oiseaux s'en vont, les insectes s'en vont. Et puis, quand les feux sont terminés, tout le monde peut réintégrer cet environnement. Tandis que quand les feux sont faits à trop grande dimension et de manière trop chaude, ben, tout est détruit. Les animaux s'en vont, mais ne savent plus revenir, ils n'ont plus d'endroit pour revenir parce que tout est détruit. Et donc, tout est transformé. Et puis voilà, c'est ça le problème, c'est qu'il faut vraiment garder cette approche holistique et respecter l'environnement, comprendre l'environnement pour pouvoir le respecter. Et c'est vraiment tout ça qu'on essaye d'expliquer à travers la voix de ces personnes extraordinaires qu'on a rencontrées, qui sont des experts en climat, la communauté aborigène qu'on a rencontrée nous ont vraiment ouvert les yeux sur énormément de choses. Et j'espère que ça sera partagé, que beaucoup de gens pourront...
Pour voir le film, ça va sortir dans le festival Melbourne Documentary Film Festival. Le 1er octobre, ça sort.
En fait, les gens doivent réserver leur ticket dès maintenant parce que le film sera montré qu'un seul jour, le 1er octobre. Et après ça, il n'est plus montré.
Il est plus disponible. Ouais.
Voilà, il n'est plus disponible. Donc, les gens ont vraiment que 2 ou 3 jours là pour pré-réserver leur ticket. Et ensuite seulement, ils ont 30 jours pour le voir, une fois qu'il est réservé. Mais voilà, donc ça, c'est la limite.
Et comment peuvent-ils se renseigner, avoir accès à ce film? Quels sont les liens, les sites sur lesquels il faut se connecter pour voir ce film?
Alors, c'est Melbourne Documentary Film Festival. Et c'est le site où ça va tourner le premier.
Ouais.
Et après, on a quelques festivals internationaux aussi. C'est en Brésil, c'est quoi les dates pour Brésil, Sandra?
Oui, il y a un autre festival qui nous a approchés, qui est dans l'idée de faire la promotion du changement climatique. Au Brésil, ils ont les mêmes problèmes qu'ici, ils ont aussi beaucoup de feux, et ils essayent de protéger leur environnement. Donc, il y a un festival qui s'appelle Film Niente. Et Film Niente nous a contactés et souhaiterait projeter le film dans leur festival, qui va avoir lieu aussi en ligne, comme Melbourne. Malheureusement, tous les festivals aujourd'hui ne peuvent offrir que cette plateforme à cause du Covid. Ouais. Seulement, c'est limité par territoire. Donc, au Brésil, seuls les Brésiliens peuvent voir le film. Et ici en Australie, bah, pareil, seuls les Australiens peuvent voir le film.
C'est maintenant ou jamais. C'est festival documentaire de Melbourne. Allez, pré-réservez votre billet.
Et quelles sont les choses les plus importantes que vous voulez que les gens retiennent de ce documentaire?
En fait, je pense qu'il y a deux sciences. Il y a la science occidentale et il y a la science traditionnelle. Nous étions là dans le passé et on a oublié notre passé. L'Australie est quelque part celui qui nous rappelle qu'il ne faut pas oublier 50 000 ans d'histoire et que la science, elle est là, retenue par les aborigènes et qu'il nous faut les écouter. C'est eux, nos professeurs, c'est pas nous. On a d'autres choses à leur enseigner et ils ont autre chose à nous apporter. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, il est possible d'agrémenter deux mondes en un et d'essayer de s'entendre et d'écouter ce qu'ils ont à nous dire et ce qu'ils veulent nous partager? Aujourd'hui, ils sont dans le partage. Ils veulent communiquer, transmettre et éduquer. Et c'est à nous d'écouter, c'est au gouvernement d'écouter, c'est très important. Sinon, ça sera peut-être trop tard. Si on ne réagit pas maintenant et si on ne fait pas quelque chose dès maintenant. C'est encore temps, mais il faut se dépêcher.
Effectivement, il y a leur sagesse qui peut être utilisée non plus seulement en Australie, c'est au niveau international, parce que la forêt australienne et l'eucalyptus, c'était exporté dans plein de pays. C'est en Californie, c'est en Afrique du Sud, en Amérique du Sud. En fait, ces grandes forêts d'eucalyptus, il n'y a personne qui sait comment maintenir ces forêts à l'étranger. Et cette sagesse de le peuple aborigène d'Australie, ça peut être utilisé par des autres dans d'autres pays. Une sorte de chose que les gens à l'étranger peuvent utiliser aussi au niveau de compréhension, comment gérer leurs forêts.
Ça a déjà commencé a priori. J'ai entendu une conversation avec Victor Stephenson, le gourou qui a remis en place les feux traditionnels à l'échelle internationale. Il est maintenant la communauté aborigène, la communauté Yuin des Firestick Alliance, sont sollicités au Canada par les Indiens du Canada qui ont oublié tout leur savoir parce qu'il n'y a plus d'anciens pour leur apprendre, leur réapprendre toutes les techniques qu'ils ont eu su et oublié. Donc, les aborigènes australiens sont là pour leur rappeler et leur montrer leur technique. Donc, effectivement, l'Australie a peut-être un rôle à jouer pour le monde entier, puisque nous sommes tous concernés par le même problème, le climat qui change, un problème climatique, un problème économique, politique, tout est lié. Mais peut-être sont-ils les sauveurs de demain. C'est ce qu'on essaye le message qu'on essaye de montrer plus ou moins dans le film.
Il faut garder un esprit ouvert et vraiment écouter et essayer de se reconnecter à la nature parce qu'elle nous enseigne beaucoup. Vous allez voir, il y a Uncle Nook dans ce documentaire qui est exceptionnel et qui nous dit que si on est sur une terre malade, les humains sont malades. Si on veut guérir, il faut guérir notre terre, il faut vraiment la protéger. Et c'est maintenant ou jamais. On ne peut plus attendre. On a assez attendu et ça serait bien que l'Australie soit un exemple et se mette à bouger beaucoup plus parce qu'on a tout ce qu'il faut justement pour on a le soleil, on a le vent. On a tout, on a l'énergie nécessaire, il faut qu'il y ait des changements.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.